Le petit avion de club paraît bien désuet à l'époque des vols supersoniques et des voyages interplanétaires. Pourtant, c'est un merveilleux moyen de redécouverte de notre paysage et parfois aussi d'exploration du passé. A priori, la prospection aérienne du nord de la France pouvait sembler une gageure. Qu'espérait-on découvrir dans ces grandes plaines nues, labourées depuis l'Antiquité, chambardées par les invasions, terriblement meurtries par les combats de la Première Guerre mondiale? Ici, les gigantesques entonnoirs des mines de la grande offensive anglaise de 1916 montrent à quel point notre sol a été bouleversé. Malgré tout, certains ensembles célèbres, comme l'abbaye et la ville de Saint-Riquier, l'antique Centula des Carolingiens, ont défié les siècles. Leur survol apporte peu d'informations nouvelles à l'historien. Par contre, l'image aérienne de modestes agglomérations trahit souvent leur origine méconnue. Ce petit village picard avait obtenu au Moyen-Âge une charte qui autorisait ses habitants a indiqué sur le terrain les limites des zones où s'étendaient leurs privilèges. C'est pourquoi les premières communes rurales prennent fréquemment une configuration circulaire qui a survécu jusqu'à nous. Ainsi, Hiermont, qui fut affranchi en 1192. Au sol, rien ne demeure de ces fossés, de ces remparts, ni de ces deux châteaux forts. Seule la vue aérienne témoigne encore de son importance passée. Implantée à la limite de la forêt, Longuevillette est caractéristique des défrichements médiévaux. Sans château, sans église, c'est le type même du village créé de toutes pièces par de misérables paysans. Pour le chercheur, nombreux sont les indices révélateurs du passé dans notre paysage. Ce retranchement celtique est souligné par des lignes d'arbres qui ont poussé sur les anciennes levées de terre et l'ont protégé de la mise en culture. Ce petit bois en étoile, au nord d'Amiens, indique l'emplacement d'un ancien fortin aujourd'hui totalement arasé. À Folleville, les ruines du donjon féodal se dressent encore. Mais les anciens fossés sont déjà envahis par les arbustes. Quand les murailles auront disparu, seuls demeureront quelques mouvements de terrain et quelques arbres disposés en cercle. Ainsi, à Bailleulmont, près d'Arras, les vestiges d'un château fort se dévoilent pour nous un court instant entre les ombres des nuages. À Ors, dans le nord, mouvements de terrain et arbustes révélateurs ont disparu. Les anomalies du parcellaire rappellent l'existence d'une forteresse médiévale entièrement nivelée. Ici, chemin et limite de champ déterminent une grande structure ovalaire. Les archives indiquent qu'il s'agit de l'emplacement d'une abbaye cistercienne abandonnée au XIIe siècle. Quelle n'est pas la surprise de l'aviateur qui a survolé en vain ce site des dizaines de fois de voir apparaître par un beau matin d'hiver le plan des bâtiments construits il y a plus de 8 siècles. Telle est bien l'étonnante possibilité des survols périodiques. Ils permettent de retrouver des vestiges enfouis, comme cette autre ferme médiévale, mais aussi des substructions beaucoup plus anciennes, dont la mémoire des hommes n'a gardé aucune trace, mais dont la terre, elle, se souvient. Depuis une douzaine d'années, la recherche, le déchiffrement, l'interprétation de ces innombrables et fugitifs hiéroglyphes de la Terre ont conduit à établir une véritable méthodologie de l'archéologie aérienne. Jusqu'à ces derniers temps, les anomalies de la croissance des végétaux étaient considérées comme les plus favorables à la détection de vestiges enfouis. Mais leur repérage est souvent délicat. Et même avec un éclairage bien choisi, il faut un œil exercé pour percevoir ces faibles indices phytologiques. Après un orage, les céréales versent parfois selon des lignes révélatrices. Ici, elles indiquent le fossé entourant un camp romain qui s'appuyait sur les pentes du mont Catelin. Une autre année, le dispositif défensif de l'entrée du camp est bien apparent dans les avoines. Un érudit du XVIIe siècle avait déjà remarqué ces phénomènes. Il écrivait à propos de la localisation d'une ville romaine au pied de ce camp, « Quand cette grande campagne est ensemencée en bled, on y reconnaît encore le compassement et les endroits des rues où le bled est plus petit qu'est-ce lieu où les maisons étaient bâties. » Aujourd'hui encore, l'agglomération romaine nous apparaît grâce à de légères variations de la teinte et de la hauteur des blés. Voici une découverte importante qui a eu lieu au cours de l'été 1972 à Ribemont-sur-Ancre. Les céréales se sont étiolées et ont jauni au niveau des fondations enfouies. Elles dessinent un théâtre antique dont le plan rayonnant est caractéristique. Ces faibles différences de la hauteur et de la couleur des blés ne dureront que quelques jours. Il faut tourner autour du site pour choisir l'angle le plus favorable et fixer l'image la plus parlante que l'on étudiera à loisir. Sur le terrain, on constate que les variations de teinte du blé restent perceptibles. Les fouilles effectuées quelques jours plus tard démontrent, comme il fallait s'y attendre, que ce sont bien les murs antiques qui ont ralenti la croissance des céréales. À Port-le-Grand, près de la baie de Somme, le phénomène inverse se produit. Les céréales lèvent plus vite, elles sont plus verdoyantes. Elles signalent des fossés comblés, entourant des tumuli ou des lieux de culte de caractère probablement funéraire, de l'âge du bronze ou de l'âge du fer. Un sondage vint nous confirmer l'origine de ces anomalies. La terre végétale est peu épaisse sur le sol crayeux et les céréales poussent mal, mais au-dessus du fossé, grâce aux remblais de terre, la croissance est nettement plus vigoureuse. Des cercles avaient attiré l'attention des paysans depuis fort longtemps, donnant naissance à des légendes de ronds de fées, de danses de sorcières, de sabbats, de revenants. L'apport principal, au point de vue méthodologique, des recherches effectuées dans le nord de la France, a été de montrer l'intérêt considérable des survols hivernaux. Sur les sols nus et labourés, qui commencent à sécher après une forte pluie ou une nuit de gel, les taches différentielles d'humidité sont révélatrices. Ici, un enclos de l'âge du fer se découpe sur le givre. Plus loin, la rosée s'est maintenue à l'emplacement de fossés comblés. Elle délimite une très grande enceinte à interruptions multiples. D'après les premières fouilles, ce serait le plus ancien vestige archéologique décelé par avion dans le nord de la France. Il s'agit vraisemblablement d'un lieu de marché ou de rencontre périodique des premiers agriculteurs néolithiques. Mais cette vaste enceinte n'est visible que quelques jours par an, comme d'ailleurs cet habitat de l'âge du fer. En effet, la moindre élévation de température effacera les taches d'humidité. Ces habitats protohistoriques étaient inconnus en France avant les prospections. À ce jour, plus d'une centaine ont déjà été repérés dans les brumes matinales de l'Artois et de la Picardie. Sur le même champ, quelques jours plus tard, tout a disparu. Suivant les hasards de la météorologie, les vestiges enfouis se révèlent et se cachent. La difficulté est de saisir les brefs moments favorables à l'apparition fantomatique du passé. Cette grande structure ovalaire correspond à une autre ferme de la fin de l'âge du fer. Les taches sombres aux abords sont d'anciennes fosses, des cachettes à provisions traditionnelles à cette époque. Voici, près d'Amiens, une grande ferme isolée, une de ces édificiades de la noblesse gauloise dont parle César. Certains de ces établissements indigènes, en bois et en torchis, subsisteront à l'époque romaine, d'autres se transformeront en villas à fondation de pierre. L'archéologue aérien doit avoir une connaissance très précise de son terroir, presque champ par champ, pourrait-on dire. Car il existe bien des sources de confusion. Ici, à côté d'un cercle protohistorique, un tracé quadrangulaire pourrait faire penser à un retranchement antique. Il n'en est rien. Les photos prises quelques années auparavant montrent la présence d'un bois aujourd'hui défriché. Ici, l'observateur identifiera, à côté des deux petits cercles protohistoriques, qui apparaissent en sombre, des trous d'obus de la Première Guerre mondiale, ainsi qu'une tranchée de canalisation moderne, qui se dessine en clair. En bordure de la Somme, quand le soleil hivernal dissipe l'humidité du sol, des cercles et une fosse protohistorique, des buttes de moulins à vent récemment disparus et des enclos agraires pré-celtiques apparaissent simultanément. Il est fréquent que les hommes aient travaillé, habité ou enterré leurs morts au même endroit pendant des siècles, voire pendant des millénaires. Ainsi, à Neufmoulins, près de Saint-Riquier, une grande ferme de l'âge du fer s'est superposée à un enclos circulaire plus ancien. Des fouilles stratigraphiques seront indispensables pour établir l'histoire du site et préciser ses différents états. En archéologie, le dernier mot reste toujours à la fouille. Mais il peut sembler étonnant que l'on ait attendu jusqu'à ces toutes dernières années pour s'apercevoir des possibilités incomparables qu'offrent en France les prospections aériennes. Certes, le repérage des vestiges arasés est une véritable chasse photographique, étant donné la fugacité et le polymorphisme des indices révélateurs. Chaque survol apporte des résultats. Lors du tournage de ce film, un grand ensemble a été repéré pour la première fois dans la brume matinale près de Vitry-en-Artois au mois de mars 1972. Un tel bâtiment est exceptionnel. Par ses dimensions, il mesure plus de 400 mètres de long, par la netteté de ses tracés sur le sol labouré, par sa situation dans une région où les archives signalent la présence d'un vaste palais mérovingien qui n'a jamais été retrouvé. Seules, des fouilles scientifiques pourront apporter les précisions nécessaires à son identification. En bordure des rivières, sur le rebord des plateaux picards, les oppidas celtiques sont connus depuis longtemps. Celui de la chaussée Tirancourt qui domine la Somme est une véritable colline fortifiée. Défendue par des pentes naturelles sur une partie de son pourtour, elle est protégée sur ses points faibles par de puissantes levées de terre, doublées de larges fossés. L'ampleur des terrassements a longtemps fait attribuer aux Romains ce camp dit camp de César. Il est en réalité antérieur, mais a été réoccupé à toutes les périodes troublées de l'histoire. Le magnifique oppidum de Liercourt-Hérondelle, situé à une trentaine de kilomètres de la mer, est plus remarquable encore. Une large descente en pente douce, que l'on distingue au bas de l'image, permettait de haler les bateaux naviguant sur la Somme, l'oppidum étant un des entrepôts commerciaux et militaires de la route de l'Étain. Sur le plateau attenant, face à la levée de terre gauloise, grâce aux taches d'humidité rémanentes, nous allons pouvoir suivre les contours d'un retranchement romain arasé d'une quinzaine d'hectares. Des fouilles ont montré qu'il s'agissait d'un camp de troupes auxiliaires de l'époque de la conquête. Il a probablement servi de base de départ pour la préparation de la deuxième expédition de César outre-Manche. Aux abords apparaissent des voies d'accès encadrées de deux lignes sombres. Ce sont d'anciens fossés bordés de réseaux de branchages pour cacher les mouvements des troupes. La photo aérienne permet en hiver une véritable radiographie des sols nus. Elle renouvelle la vision d'un site connu depuis longtemps et ouvre la voie à des recherches inédites. Une autre base romaine a été repérée à Folleville. Nous voyons ici un des angles de ce retranchement carré à double fossé parallèle complètement nivelé et mesurant quelques 400 mètres de côté. C'était un camp temporaire établi en période opérationnelle ou au cours des épisodes de répression qui suivirent la conquête. Les voies antiques constituent l'empreinte la plus durable que Rome ait laissée sur notre paysage. Près du mont Saint-Éloi, voici la voie qui reliait Arras à Boulogne, le seul grand port antique du littoral. L'aviateur croise souvent ces tracés rectilignes qui s'étendent jusqu'à l'horizon et qui rappellent le passage des légions de Rome. Cette voie convergeait à Bavay, l'antique Bagacum, un des grands nœuds routiers du nord de la Gaule. Cinq d'entre elles sont devenues nos routes nationales, les deux autres des départementales. Parfois aussi, la voie romaine a été abandonnée. Elle s'est alors métamorphosée en chemins creux ou en lignes d'arbres qui apparaissent et disparaissent dans la campagne. Les précieuses couvertures aériennes de l'Institut Géographique National permettent d'étudier les voies antiques plus commodément. Ici, l'emplacement d'une ancienne base fortifiée a provoqué un décrochement exceptionnel. À Boulogne, on retrouve la forme quadrangulaire du castellum antique, réoccupé au Moyen Âge. Toutefois, il est rare que sur les couvertures aériennes, l'on puisse déceler de petites substructions enfouies. Seuls des survols à basse altitude sont alors efficaces. Ce vestige est fort intéressant, c'est un petit temple gallo-romain de type fanum. À Proyard, un autre fanum est entouré de constructions arasées. Sur la droite, la maison du Custos, le gardien du sanctuaire. Ces petits sanctuaires campagnards pourraient être à l'origine lointaine de certains de nos villages. Voici, à Ribemont-sur-Ancre, le plus vaste sanctuaire antique découvert par avion. Il avait sans doute été construit pour favoriser la propagande impériale et la romanisation des campagnes. Le tertre blanc marque la position d'un grand temple édifié dès la fin du règne d'Auguste. Face au temple, des constructions s'étendent sur près d'un kilomètre. À côté d'un grand bâtiment rectangulaire, dont la destination échappe encore, une auréole blanchâtre correspond au théâtre, que l'on a aperçu si nettement dans les céréales. Ces grands sanctuaires ruraux à théâtre étaient des lieux de culte, de pèlerinage, de divertissement, de marché ou de foire périodique pour la population des campagnes. Le sanctuaire de Chanlieu dans l'Oise est du même type. Son théâtre avait été dégagé au siècle dernier. Mais le résultat le plus important de l'archéologie aérienne dans le nord de la France est incontestablement la découverte de l'habitat rural antique. On pensait généralement jusque-là qu'il y avait peu d'établissements ruraux et que la civilisation y était urbaine. Or, les survols ont révélé une campagne constellée de grands ensembles isolés. Ces découvertes ont eu lieu principalement l'hiver. Sur le fond sombre des riches plaines de Limon, les tracés blancs et géométriques des substructions gallo-romaines apparaissent alors nettement. Les socs des puissantes charrues modernes remontent à la surface des éléments de fondation qu'ils détruisent irrémédiablement. Et les moellons calcaires seront vite dispersés par les herçages. Il est grand temps de fixer l'image de ces vestiges incomparables. Voici, à Chirmont, dans la Somme, une maison de type indigène au plan basilical, à nef centrale et deux bas-côtés. Près de Bapaume, trois grands bâtiments antiques indéterminés. À quelques centaines de mètres de là, le plan fragmentaire d'un ensemble étendu n'est visible que dans la parcelle récemment labourée. Ces vestiges s'étendent souvent sur plusieurs hectares. Il est exceptionnel qu'ils apparaissent simultanément. Les survols ne donnent que des images partielles selon l'avancement des travaux agricoles. Ce petit bâtiment semble isolé. L'observation attentive montre qu'il se rattache à un ensemble plus étendu. Par contre, à Béhan, une villa gallo-romaine se révèle dans sa totalité. Le plan d'ensemble est celui d'un grand rectangle allongé, parfaitement géométrique. L'habitation principale fait face à une longue cour bordée de dépendances. Du Beauvaisis à l'Artois, du Vimeux au Cambrésis, les villas antiques sont toutes construites selon le même type de plan. De plus, elles sont constamment orientées au soleil levant et systématiquement implantées au milieu des terres les plus riches. Déjà, ces grands domaines de l'Antiquité cherchaient avant tout à produire le blé et la laine dont l'armée du Limès avait tant besoin. Jusqu'au début du XXe siècle, ce sera la vocation quasi exclusive des campagnes picardes et artésiennes. À Villers-sous-Ailly, près de la route moderne, le plan du bâtiment principal d'une villa est aussi net qu'une épure d'architecte. On distingue une galerie en façade, calée par deux tours carrées, particularité qui se retrouve dans bien des villas. Et nous entrevoyons même la distribution des pièces où vivait une famille de gallo-romains il y a près de 2000 ans. Luxe et confort sont de règle dans ces grandes demeures campagnardes. La présence de pilettes d'hypocauste témoigne du chauffage à air chaud non seulement dans les bains, mais aussi dans quelques autres pièces. À Atti, près de Péronne, le bâtiment du maître de la villa est en cours de fouille. D'imposantes pierres de taille ont été dégagées. Elles donnent une idée de l'importance des constructions. Dans les sous-sols, de vastes ateliers destinés au travail de la laine avaient été aménagés. La régularité et la similitude de ces ensembles gallo-romains sont étonnantes. Cette tentative de reconstitution montre une grande cour divisée en deux parties. Au premier plan, la pars rustica, avec des bâtiments agricoles, granges, hangars, ateliers, resserres. Un mur la sépare de la pars urbana et de son jardin d'apparat face à la maison du maître. L'habitation principale, véritable palais campagnard, tout en longueur, avec la galerie façade encadrée par deux tours d'angle, elle est bien différente des villas antiques italiennes, de plan ramassé, avec atrium et péristyle. Sur un des côtés de la cour agricole, la maison du Vidicus, le régisseur. Modèle réduit de l'habitation principale, même galerie-façade, même tour carré aux angles. Enfin, des granges, des habitations d'esclaves. L'ensemble est entouré d'un mur de clôture, mais nulle trace de système défensif pour ces villas du Haut Empire. En effet, les recherches sur le terrain indiquent que la plupart de ces grands établissements, comme celui d'Estrée-sur-Noye, sont antérieurs aux premières et catastrophiques invasions du milieu du IIIe siècle et aux troubles qui s'en suivirent. Jacquerie, révolte militaire et guerre civile. Bref, 25 ans de désordre et de pillage qui mettent fin à plus de 2,5 siècles de paix et de prospérité en Gaule romaine. Des centaines de grandes villas sont alors à tout jamais détruites. Quelques-unes seulement subsistent ou sont réédifiées. Autour d'elles, l'habitat se regroupera et les premiers villages de Leti s'établiront. Quant à celles que nous distinguons d'Avion, fossilisées par leur abandon définitif, elles sont l'image d'une civilisation brutalement anéantie, figée par le plus grand désastre que nos régions aient jamais connu. La Gaule tout entière brûla comme une torche, a-t-on dit. Or, il arrive que les aires cendreuses de ces incendies gigantesques d'il y a plus de 15 siècles réapparaissent parfois encore, sous certains angles, aux yeux stupéfaits de l'aviateur. Le but principal des prospections aériennes est de permettre l'établissement de cartes archéologiques. Pour l'époque romaine, prenons le cas de la Somme, où les recherches ont été menées le plus systématiquement. Avant les survols, les voies romaines étaient répertoriées. On connaissait aussi une magnifique série d'oppida celtiques. Et 6 emplacements de constructions rurales indéterminées avaient été repérés. L'Avion a permis la découverte d'une quarantaine de sanctuaires, dont 2 particulièrement importants, l'un à Ribemont-sur-Ancre, l'autre à Vandeuil-Capely. Une série de camps militaires romains ont été retrouvés. Enfin, et surtout, pour le seul bassin de la Somme, près d'un millier d'habitats ruraux et de villas gallo-romaines entièrement inconnus ont été décelés. Pour la première fois dans une région donnée, il est désormais possible de se faire une idée précise de l'implantation et de la typologie de l'habitat antique. La prospection aérienne est le seul moyen d'établir l'inventaire et la cartographie de notre patrimoine archéologique si gravement menacé aujourd'hui. Nous le savons maintenant, la Terre garde les empreintes du passé. Il nous faut seulement apprendre à les observer et à les déchiffrer du ciel.